www.radio-g.fr.
Voilà, il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette première émission de l'année consacrée aux droits humains. Pour cette belle émission, pour l'animer, nous avons Philippe et Sophie. Merci à vous d'être présents.
Et ravi de vous retrouver.
Bonsoir à tous et bonne année.
Bonne année, oui.
Ah oui.
Et on a également le plaisir d'avoir dans le studio Juan et Pierre. Merci à vous deux. Dans cette émission, nous allons recevoir Frédéric et Jean-Pierre de la LDH Angers. Puis nous passerons en revue l'actualité et dans la rubrique biographie, vous sera proposé un nouveau portrait d'un défenseur des droits humains. Mais tout d'abord, Philippe, tu voulais nous parler d'un sujet important. Tu voulais parler de la libération du camp d'Auschwitz il y a exactement 75 ans.
Le 27 janvier 1945, en effet, près de 7000 déportés étaient libérés d'Auschwitz par l'armée rouge. Les autres détenus avaient été assassinés sur place ou forcés à évacuer les lieux lors de terribles marches de la mort. Plus de 1,1 million d'Européens ont été exterminés rien que dans ce lieu entre 1940 et 1945, principalement des Juifs, mais aussi des Roms, des Gitans, des prisonniers de guerre soviétiques, des Polonais et d'autres victimes de rafles.
Cet anniversaire a-t-il permis au moins de mettre entre parenthèses les rivalités au sein de l'Europe ?
On est frappé au contraire par la montée agressive des nationalismes. Plusieurs États d'Europe centrale et orientale, la Pologne, qui refuse toujours de voir son lourd passé antisémite, l'Ukraine, la Lituanie, ont ainsi boycotté les cérémonies au grand bénéfice du président russe. Celui-ci en a profité pour livrer sa propre vision de l'histoire, glorifiant sans réserve l'armée rouge, oubliant étrangement le pacte germano soviétique de 1939.
Et constat alarmant, les antisémites sont toujours à l'offensive.
On assiste en effet à une montée inquiétante de l'antisémitisme. En 2000, à Stockholm, le troisième forum mondial sur la Shoah auquel avaient assisté 46 chefs d'État et de gouvernement avait débouché sur une déclaration en 8 points, évoquant notamment la responsabilité solennelle de combattre le génocide, le nettoyage ethnique, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. 19 ans plus tard, la promesse de Stockholm n'a pas été tenue. En Europe, où ne vit plus que 10% de la population juive mondiale contre 60% en 1939, des scènes que l'on croyait définitivement réservées aux livres d'histoire refont la une des journaux, comme à Halle, au cœur de l'Allemagne, dont la synagogue a été récemment attaquée par un suprémaciste blanc le jour de Yom Kippour. Idem en France, croix gammée, profanation, tag, injure, menace, les tags antisémites recensés par le ministère de l'Intérieur ont augmenté de 74% en 2018.
Si bien que l'Assemblée nationale a adopté le 3 décembre une proposition de résolution contre l'antisémitisme.
Son auteur, un député de La République En Marche, proposait au Parlement l'adoption de la définition de l'antisémitisme telle que formulée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Ce texte controversé a été adopté par un nombre très faible de voix et de très nombreux parlementaires n'ont pas voulu prendre part au vote car il associe, voire assimile, à une forme d'antisémitisme l'antisionisme qui signifie pour nous l'hostilité à la colonisation des territoires palestiniens, mais sans nier l'existence d'Israël. L'antisémitisme est un délit, l'antisionisme est une opinion. Les opposants craignent que cette résolution ne soit instrumentalisée pour délégitimer la critique du gouvernement israélien et de l'occupation en Cisjordanie. Dans une tribune au Monde, 127 intellectuels juifs ont d'ailleurs appelé à la repousser. Israël est désigné comme une collectivité composée de citoyens juifs. Or, environ 20% de la population sont des citoyens palestiniens, dont la plupart sont musulmans ou chrétiens. Par conséquent, la désignation choisie occulte leur existence.
Mais on peut aussi faire valoir un autre argument.
Oui, l'antisionisme est un point de vue tout à fait légitime, même dans l'histoire juive. Il a une longue tradition, y compris en Israël. Certains juifs s'opposent au sionisme pour des raisons religieuses, d'autres pour des raisons politiques ou culturelles. De nombreuses victimes de l'Holocauste étaient antisionistes. Le projet de résolution les déshonore et offense leur mémoire en les considérant rétroactivement comme antisémites. La définition de l'Alliance internationale est déjà utilisé pour stigmatiser et réduire au silence les critiques de l'État d'Israël émises notamment par les organisations de défense des droits humains. Cette situation a été condamnée par d'éminents spécialistes de l'antisémitisme.
Et cette résolution est également en contradiction avec la position des Nations Unies et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
L'antisémitisme doit en effet être combattu sur des bases universelles, au même titre que d'autres formes de racisme et de xénophobie. C'est ce que préconise Amnesty International.
Merci Philippe. Allez, vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 et il nous tarde de recevoir Frédéric et Jean-Pierre de la Ligue des
Bonsoir.
Droits de l'Homme, Angers. Bonjour, merci
Bonsoir.
D'être
merci
avec
de
nous ce
inviter.
Soir.
Alors, on est ravis de recevoir effectivement la LDH. On sait que vous êtes une association qui travaille à la défense de nos libertés fondamentales, et ce depuis longtemps. Alors, je voudrais d'abord vous interroger quand même sur un sujet brûlant qui défraie la chronique, c'est les violences policières. Est-ce que vous avez mené des actions pour dénoncer l'impunité de la police, par exemple ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme au niveau national a mis en place un certain nombre d'observatoires dans différentes villes.
D'accord.
Historiquement, ça a commencé sur Toulouse. Mm-hmm. Et après Montpellier, je pense que vous avez peut-être entendu parler de Camille Allu.
Oui, on va en parler.
Qui malheureusement a été mise en garde à vue et puis contre laquelle il y a eu des procédures judiciaires. Donc voilà, il y a un certain nombre d'observations qui ont été mises en place dans différentes villes. Les rapports, enfin, ces observateurs ont fait des rapports qui sont en ligne sur le site de la LDH. Mmh. Je vous incite vraiment à les lire parce que ça relate les faits,
oui.
Vraiment tous les faits. Et du coup, on voit très bien ce qui se passe en ce moment, quoi. Avec des violences qui sont absolument injustifiées, mmh. En plus des vidéos, etc.
Ouais. Et je crois que vous avez le projet de créer le même observatoire sur Angers, n'est-ce pas ?
Oui. Alors, pour l'instant, on est en discussion avec des associations. On va voir si ça peut naître.
D'accord.
On est en discussion. Bon, on a eu un certain nombre d'alertes sur Angers. Hein. Il y a eu des articles de presse qui sont passés, mmh. Des personnes qui ont été mises en garde à vue, des tasers utilisés. Enfin, il y a quand même de quoi s'inquiéter pour nos libertés aussi, parce que récemment, le préfet a interdit, par exemple, de manifester sur les voies sur berge. C'est aussi une atteinte aux libertés.
Ah, oui.
Donc, tout ça, c'est à dénoncer. Mmh. Donc, c'est plus vaste que les violences policières, c'est aussi toutes les atteintes aux libertés.
Oui.
Il faut remettre ça aussi dans le contexte par rapport à tout ce qui a été intégration de l'état d'urgence dans le droit commun en 2017.
D'accord.
Qui permet aussi un certain nombre de restrictions de nos libertés.
Ben oui, bien sûr.
Et puis, nous savons aussi que vous vous intéressez aux données personnelles et aux risques liés aux technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect ?
Oui, donc la Ligue des droits de l'homme est basée sur tous les textes de défense des droits de l'homme. Mmh. Hein, donc la déclaration 1789 et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et l'article 12 de la déclaration universelle dit que nul ne sera l'objet d'immission arbitraire dans sa vie privée. Donc
d'accord.
On voit bien que toutes les données que l'on peut émettre, donner lorsqu'on va sur Internet, lorsqu'on utilise notre téléphone portable... toutes ces données sont des données personnelles, qui sont des données sensibles. Et on voit très bien que les usages, que ce soit commercial ou même qui pourraient potentiellement être utilisés par des institutions, sont des données extrêmement, extrêmement sensibles. Donc ça nous intéresse depuis longtemps, parce que la LDH, en 1999, dans son congrès de Grenoble, a commencé vraiment à s'intéresser à ces... aux données personnelles et à tout ce qui est traçage, etc.
Je suppose que, Jean-Pierre, vous avez aussi fait des actions en faveur des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden ou bien Julian Assange.
Oui, alors on est attentif évidemment au sort aussi qui est réservé à ces lanceurs d'alerte et au manque de protection dont ils pâtissent. Hein. Mmh. On demande d'ailleurs, la Ligue demande à ce que la France puisse accueillir des lanceurs d'alerte qui aujourd'hui sont incarcérés dans certains pays. Ouais. Concernant, je veux juste revenir sur les violences policières. Mmh. On est très attentif à ce qu'a dit notamment notre ancien président Henri Leclerc, un grand avocat français, qui... publiquement a dit en fait ce qui se passe avec les policiers, c'est un drame. Alors je paraphrase un peu, mais les policiers sont des citoyens et notre société a besoin de policiers. Mmh. Et donc le danger, c'est qu'il y ait une fracture entre les policiers. Rappelons-nous, il y a 5 ans, la solidarité qui s'était manifestée.
Après les attentats.
Et voilà. Et ce que pointe Henri Leclerc, c'est la hiérarchie policière.
C'est un problème de commandement.
Et je veux relayer aussi, enfin, des propos d'Henri Leclerc sont relayés par le secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale française, donc, qui n'est pas un gilet jaune, et qui nous dit, dans les manifestations, on a vu des gestes inappropriés, donc ceux-là sont inadmissibles, et il rajoute, il y a eu des consignes d'extrême fermeté et des choix politiques d'aller au contact. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est aussi... la politique policière qui est
bien
en cause.
Sûr.
Je ne suis pas un spécialiste, mais là, il y a un danger. Concernant les données personnelles, puisqu'on en était là, moi, je vais donner un petit témoignage. J'ai un portable et c'est magnifique. L'autre jour, j'écoutais une conférence et sur mon portable est venue une note de doctrine concernant le sujet qui a été traité par le conférencier. C'est formidable, mais ça pose question.
Ben, bien sûr.
Bon, bien. Autre témoignage. Je suis avocat. J'avais un cabinet secondaire dans une ville du département dont le maire a, il y a quelques années, décidé d'installer une vidéosurveillance sur le parking où donnait mon cabinet, mais juste devant mon cabinet. J'ai été obligé de fermer mon cabinet.
Ah oui.
Car c'était inadmissible. Qu'on puisse, que mes clients puissent être filmés en train de rentrer chez un avocat.
Ouais.
Donc voilà les problèmes que pose pour moi la vidéosurveillance.
Alors Frédéric, je crois que vous allez organiser une soirée très bientôt pour alerter les citoyens justement sur la surveillance dont on est l'objet.
Oui, alors mardi 4 février à 20h au centre Jacques Tati à Belle Bay, nous allons diffuser le film qui s'appelle Nothing to Hide, Rien à cacher en fait. Donc sur le traçage qu'on peut laisser comme ça sur un téléphone portable et comment on peut être suivi, tracé, comment quelqu'un peut capter nos données et savoir énormément d'informations sur nous. Ce sera en présence donc de Jean-Pierre qui est ici présent.
D'accord.
Et puis également de Erwan Rougeux qui est DSI à la mission laïque internationale.
DSI c'est quoi ?
DSI, il s'occupe de...
Délégué
système informatique.
Merci.
Ah oui, d'accord.
Merci pour toutes ces informations. Et où est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir plus d'informations ?
Alors, nous avons un blog, c'est ldh49.over-blog.org. Vous retrouverez donc toutes ces informations et les informations sur, sur ce film. Et je vous incite également à aller voir le site qui s'appelle technopolis.fr sur lequel vous verrez comment résister à la surveillance totale de nos villes et de nos villes.
Moi, j'y suis allé voir. C'est très bien fait. C'est très intéressant, effectivement. Et on peut aussi se procurer le texte, les textes qui ont été produits par les différents observatoires en France, dont celui de Nantes. C'est très éclairant.
Et vous pouvez aussi signer sur le site de la LDH les pétitions pour soutenir Julian Assange et Edward Snowden.
Merci pour le travail que vous faites.
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir invités.
On se retrouve après une pause musicale.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, au repos de Rote d'Oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or,
sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdent en toute mesure, se ruèrent sur les guignols, et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, m'attrape à grands coups de mamelle, ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniant, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas.
Et voilà, c'est vous êtes bien de retour sur Droit Devant, sur Radio G101.5 FM, et vous venez d'écouter la savoureuse Hécatombe de Georges Brassens, enregistrée en live à Bobino. Je sais pas à quelle année, hein, en revanche, vous savez-vous ?
Je sais pas.
Bien, mais maintenant, il est temps d'écouter la fameuse chronique de Céline. C'est notre veilleuse de la halte d'urgence d'Angers, située au chemin de Traverse.
Bonsoir Valérie. Il fait bien froid ce soir. Beaucoup de personnes sont installées autour du brasero. Tout ce qui est chaud est très apprécié, lentilles, café, chocolat, thé. Au Secours Populaire, on nous a donné du fromage, du lait, des chouquettes et il y a quelqu'un des restos qui est passé apporter plusieurs boîtes de fromage. Tout cela complète le pain, les pizzas et viennoiseries récupérées hier soir chez Ange. Pendant la première partie de la soirée, nous sommes très sollicités pour servir tout le monde et avons peu de temps pour échanger. Des écharpes, des bonnets, des chaussures sont aussi les bienvenus. La petite de la famille Smalage réclame un gant et un sac poubelle pour ramasser les déchets. Nous faisons le tour du parking ensemble. Le site est quasiment plein à 20h. Nelly et Kumba obtiennent les dernières places côté famille vers 20h40 et Ben la dernière place du côté des hommes. Il reste une quinzaine d'hommes, la plupart assis autour du brasero. Jean-François viendra chercher 3 hommes. Philippe et Françoise accueilleront 2 hommes. Sylvain emmène Ousmane et Ali à l'écho de quartier. François conduit à la paroisse, 3 hommes aussi. Ce sont donc 10 hommes qui sont hébergés chez des jokers. Dabo a prévenu un ami qui allait l'héberger et qu'il arrive. Il reste autour du feu 4 hommes qui ne nous demandent rien. Nous emmènerons Erjan en centre-ville. Nous prévenons Marie et Sonia qu'il n'y a pas de femme ou de famille à héberger ce soir.
Et c'est le temps de la rubrique actualité. Commençons par les bonnes nouvelles, on en a bien besoin. La crise climatique devra être prise en compte par les gouvernements lors des demandes d'asile, paraît-il.
En effet, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rendu une décision historique. Un État violera ses obligations au titre des droits humains s'il renvoie une personne dans un pays où sa vie est menacée en raison de la crise climatique. Les îles du Pacifique seront les premiers pays impactés par les problèmes de migration dus au dérèglement climatique. Le message est très clair. Il ne faut pas attendre que les États insulaires soient sous les eaux pour mettre en œuvre les obligations en matière de protection du droit à la vie.
Sophie, sévère défaite pour l'extrême droite en Italie.
Écarté du pouvoir italien en septembre dernier au profit du mouvement 5 étoiles du Parti démocrate, la Ligue de Matteo Salvini a subi un nouveau coup dur en perdant une élection régionale à valeur de test national. Elle a été nettement battue par la gauche dimanche en Émilie-Romagne. L'ex-vice-président du Conseil et ex-ministre de l'Intérieur comptait sur ce scrutin symbolique pour reconquérir le pouvoir en Italie. Mais le mouvement citoyen anti-Salvini des Sardines a su mobiliser massivement les électeurs.
Partons maintenant en Pologne, Philippe, où le 11 janvier, des juges et des avocats d'au moins 14 pays ont marché à Varsovie pour défendre les droits humains et l'état de droit.
Ces magistrats voulaient manifester contre une loi soumise au vote du Sénat. Cet élan de solidarité sans précédent avec les juges polonais est une réponse à la crise de plus en plus grave qui touche le système judiciaire du pays. Depuis fin 2015, le gouvernement a adopté et appliqué une série de mesures législatives et politiques qui menacent gravement l'indépendance de la justice en imposant des restrictions sévères aux droits des juges. Cela englobe le fait de politiser leur nomination ou encore de conférer au ministre de la Justice le pouvoir exclusif de limoger et de nommer les présidents.